Extra classe.
Aujourd'hui, c'est une émission spéciale enregistrée depuis l'université d'été Ludovia, que nous remercions chaleureusement pour son accueil. Nous avons choisi de parler d'un thème qui est abordé dans plusieurs ateliers cette année, le podcast éducatif, et on va se demander comment les enseignants peuvent s'emparer de ce média. Régis, tu ne m'en voudras pas si je dis que tu es un vieux routard du podcast.
Non, clairement.
Bon, tu le connais, tu le pratiques depuis longtemps. Alors, j'aimerais savoir de quel œil tu vois le boom actuel du podcast dans tous les domaines. Est-ce que ça décolle aussi du côté de l'éducation ?
Alors, j'ai effectivement pas mal d'années de podcast derrière moi, mais nos invités aussi ils vont nous le dire. Mais effectivement, il y a un gros engouement en ce moment autour de ce médium, hein, comme on dit. Il se passe pas mal de choses. On parle même de la deuxième vague du podcast. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque c'est une émission dédiée au podcast, un petit point lexical. Donc, le podcast, c'est un mot valise, hein, qui est né en l'an 2000. Qui est une combinaison du terme iPod, le fameux baladeur de la marque à la pomme, et broadcasting, qui veut dire diffusion. Pourquoi l'iPod ? Parce qu'il incluait du podcast. En tout cas, c'était un des premiers objets à inclure du podcast et de la balado-diffusion. Donc, ça a été popularisé ensuite à partir de 2004. Les pionniers des usages pédagogiques sont de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas, nos cousins du Canada et du Québec. Et eux, ils ont très vite vu l'intérêt de ce qu'ils appellent, eux, la balado-diffusion. Tellement plus joli. Et là, on est 20 ans après la naissance du podcast et on assiste à, je le disais, à cette deuxième vague dans tous les domaines et comme tu le disais, effectivement aussi dans le monde de l'éducation, sur tous les thèmes, j'ai envie de dire, et à tous les formats, nos invités vont nous le dire aussi, des formats longs, des formats courts, des modes intimistes, des tables rondes. Et donc effectivement, la sphère éducative, elle ne fait pas exception à ça, que ce soit du côté des élèves ou des enseignants.
Alors, quelle pratique dans les classes ? Comment se lancer ? C'est à ces questions que s'attaque cet épisode de Parlons Pratique, avec des invités que nous allons vous présenter tout de suite. Et tout d'abord, Natacha Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeure documentaliste au lycée agricole d'Auche. Cette année, vous avez accompagné les lycéens du Club Web Radio dans la création d'un podcast documentaire sur la charge mentale des femmes. Un podcast qui a été récompensé au festival Une fois, une voix.
C'était le concours Une fois, une voix, oui.
D'accord.
Et c'était sa première édition à ce concours. C'était une occasion pour nous de trouver une motivation supplémentaire à réaliser quelque chose de concret et aussi de qualité dans l'année avec le club web radio de mon lycée.
Alors on va en parler tout de suite.
Sébastien Manodrita, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur des écoles et animateur du podcast e-teachers. Je pense que les auditeurs d'Extra Classe qui écoutent du podcast éducatif, en tout cas pour les enseignants, doivent avoir entendu au moins une fois e-teachers, le podcast des profs numériques, c'est bien ça ?
C'est bien ça, né sous l'inspiration de Jean-François Simon et Guillaume Augier. Ben, on a une date de naissance approximativement identique à celle d'un autre podcast très connu qui est Nipédu. Donc on se permet de faire des émissions qui nous permettent de partager notre veille éducative numérique.
Alors on va déjà se poser la question du podcast, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tout support audio est du podcast ? Quelle est la différence avec une web radio ? Je commence avec Natacha puisque vous travaillez avec la web radio du lycée depuis quelques années. Alors comment, voilà, le podcast pour vous, comment vous le définiriez ? Et puis qu'est-ce que ça vous permet de faire ?
Tout basiquement, matériellement, c'est déjà le fichier MP3 ou autre qu'on va pouvoir déposer, par exemple, sur le site web de la web radio qu'on a créé. Mais au départ, on avait plutôt fait des petits sons qu'on déposait sur le NT avant qu'on ait un site. Et même si on a une web radio, on a assez peu de temps pour faire un flux et pour faire vraiment une programmation. Et du coup, c'est vrai qu'on est davantage sur des podcasts, même si on a des rendez-vous un peu régulier comme une émission mensuelle en plateau, en studio, enregistrée dans les conditions du direct et qu'on va du coup podcaster plus tard sur le site de la web radio à blocradio.fr. Mais là, dans le cadre du concours, c'était vraiment un podcast, mais je parlerais plutôt d'un documentaire audio parce que podcast, ça veut tout dire, on a dit, hein, c'était un mot valise. Et on a du coup fait aussi bien des rediffusions d'émissions que des chroniques, que des fictions qu'on avait écrite et jouée, mais là c'était un documentaire, donc je préfère insister sur le côté documentaire que sur le côté podcast.
Sébastien, sur ce côté, c'est de l'audio, techniquement c'est effectivement un fichier audio, quels sont les éléments de simplicité technique, les atouts de ce côté-là que vous pouvez voir dans ce format audio ?
Elles sont très simples, c'est la disponibilité, c'est-à-dire on a ce fichier-là qui traîne sur notre appareil préféré, celui qu'on balade, et on va l'écouter quand on veut. Hein. Généralement, certains l'écoutent en faisant du sport, certains l'écoutent en faisant la vaisselle. Hein, voilà. Et bon, c'est ce côté-là très très accessible, ce choix du moment qui rompt avec la radio classique telle qu'on l'a connue, avec des formats, et puis c'est vraiment la simplicité de fabrication, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais fabrication d'un épisode où on peut mettre ce que l'on veut et parler de ce que l'on veut.
Est-ce qu'il y a un côté aussi, ne pas être piégé devant les écrans, qui peut séduire les enseignants, parce que c'est du numérique, mais sans l'écran?
Ouais, moi je sais que parfois, je vais vous révéler un secret, parfois je corrige mes copies en même temps que j'écoute un podcast, ça fait voilà, je tombe dans une espèce de torpeur merveilleuse, donc voilà, il y a ce côté vraiment, plutôt qu'une musique, etc., on va avoir cette voix qui va nous porter, je sais pas, quand c'est celle de Régis par exemple.
Là on parle du côté, alors en tout cas Sébastien, de l'enseignant qui écouterait du podcast sur ses différents moments de vie. On entre encore plus dans le vif du sujet en se posant la question du pourquoi le podcast éducation, pardon, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, et notamment avec votre exemple de votre projet, Natacha, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Mais dans les retours qu'on avait eus par les élèves qui avaient fait ce podcast particulièrement, il y a un élève qui disait, par rapport à un exposé classique, c'est très différent parce qu'on était allé chercher des entretiens, des expériences de vie chez les témoins qu'on a interrogés. Mais eux, d'entrée, ils avaient comparé ça avec un exposé à faire en classe. Parce que finalement, il y a un sujet, il y a une problématique éventuellement qui peut être le sous-titre. Et puis, on va convoquer des recherches documentaires, on va convoquer des sources que sont les personnes et leurs expériences. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On fait un plan, on fait un conducteur, on raconte des choses autour, une intro, une conclusion, des transitions. Et on fait de l'écriture avec le montage. Et on pourrait dire que, basiquement, si on voulait changer des exposés en classe, on pourrait déjà tous basculer sur du podcast. Seulement, c'est quand même un peu plus engageant que des exposés. Ça demande beaucoup plus de temps, un petit peu de moyens, même si c'est très léger. Et puis, on ne pourra pas concerner l'ensemble de la classe de la même manière.
Alors, une petite question, moi, que je me posais, c'est quand vous avez parlé de podcast ou même de radio avec vos élèves, est-ce qu'ils ont des pratiques déjà? Est-ce qu'ils connaissent bien ce média-là ou ils le découvraient plutôt?
Ils écoutent la radio plutôt musicale. Là où on intervient, eh bien, c'est en essayant de leur donner une culture radiophonique qui soit différente, en leur montrant que une radio qui parle, c'est bien aussi, et qui sait de quoi elle parle surtout, et qui construit ce dont elle parle. Et évidemment, on a quelques exemples à convoquer, à faire écouter. Donc c'est une culture radiophonique, plus précise que culture médiatique. C'est pour ça que les professeurs documentalistes sont d'ailleurs un peu souvent à la manœuvre, puisque ça rentre un peu quand même dans notre domaine de compétences ou d'enseignement. Après, pour les podcasts, il se dit que les jeunes écoutent beaucoup de podcasts. J'ai du mal à mesurer ça, notamment auprès des plus jeunes. Donc je pense qu'on peut davantage, nous, les tirer vers ce genre de pratique plutôt que de s'inspirer de leurs pratiques. Pour l'instant, hein, parce que je pense pas qu'ils soient... très abonnés à des chaînes ou à des flux sur des plateformes et écoutent des podcasts indépendants. Ça serait davantage des rediffusions, je pense, d'émissions.
Ou alors peut-être pas forcément du podcast éducatif, du podcast sur un groupe qu'ils aiment bien ou des choses comme ça, effectivement.
Après, ce qu'ils connaissent très très bien, c'est le podcast YouTube.
La vidéo.
Donc vidéo ou pas vidéo, mais mis sur YouTube quand même, donc avec quelque chose qui bouge et ils se concentrent sur le son. Donc ça, ils n'ont pas eu besoin de nous pour avoir cette habitude de faire plein de choses en écoutant, parce que ils travaillent tous en écoutant quelque chose. Mais l'éducatif particulièrement, on a quand même besoin d'intervenir.
Alors justement, est-ce que l'un de vous deux utilise... Alors on n'est plus dans le côté production par et avec les élèves, mais est-ce que l'un de vous deux utilise le podcast dans une séquence pédagogique, des morceaux d'audio, de podcast pour à faire écouter en classe sur une thématique ou une autre? Est-ce que vous avez des pratiques là-dessus? Je sais pas, peut-être on commence par Sébastien.
Non, mais tu m'as donné une très très bonne idée pour cette année, merci.
Et Natacha?
Oui, dans le cadre de mes cours en BTS, en information documentation, soit pour traiter le thème, soit pour aborder une notion ou l'actualité ou la manière dont l'actualité est traitée, je vais beaucoup piocher des extraits d'émissions que j'ai pu entendre juste avant ou que je connais, et je fais des montages et je les fais écouter, oui.
Alors, Natacha, vous parlez des lycéens. Est-ce que, Sébastien, vous avez l'impression que dans le collège-lycée, peut-être, il y a des pratiques. Est-ce que dans le premier degré aussi, le podcast est un outil pédagogique qui peut être utilisé par les enseignants, ou c'est encore assez timide?
Ça reste des initiatives assez localisées, mais bon, comme l'a dit Régis fort justement, comme le format se répand, comme les gens connaissent un peu plus ça... Comme d'habitude, les enseignants, quand ils connaissent quelque chose, ils ont envie de le réinvestir dans leur pratique. Et ça va continuer, ça va se multiplier. Et moi, par exemple, tout bêtement, cette année, je vais m'y mettre avec ma classe, mais ça restera localisé, etc. Donc, c'est en cours, on va dire. C'est en voie de.
Alors là, on l'a dit, hein, je crois, en début d'émission. En tout cas, on l'a dit dans le teaser, on est sur l'événement Ludovia 18. Vous entendez sans doute des petites voix autour, il y a des choses qui se passent. Et la thématique de cette édition de Ludovia, vous le savez, c'est le numérique est-il social ? Et dans le cadre de ce que vous pouvez avoir comme pratique autour du podcast, est-ce que vous avez un point de vue ou un angle, un fil à tirer sur cette thématique du social ? Natacha, peut-être ?
Mais typiquement, avec ce qu'on a fait et ce qu'on vit avec le club, parce que nous, on fait des choses avec les classes, avec des classes, selon les projets, mais ce pourquoi je suis venue sur Ludovia, c'est avec un club que j'ai fait le concours. Et c'est vraiment une histoire de lien, une histoire de rencontre, une histoire d'échange, une histoire d'humain. Et le thème qu'on a traité dans le documentaire audio qu'on a fait, c'est le travail des femmes, la charge mentale des femmes qui travaillent, particulièrement, et d'écouter les témoins, de rentrer dans leur vie personnelle. Des fois, quand ce sont vos enseignants et que vous avez 15 ans, c'est très bousculant, sans être perturbant. Et les témoins eux-mêmes ont beaucoup appris, ont été surpris d'entendre les autres témoins au moment où le podcast était finalisé. Et c'est vraiment ça, c'est créer un espace, créer un moment, une occasion de parler de soi. C'est pas si souvent qu'on vous demande de parler de vous et de votre parcours et de vos sentiments et de les partager et puis surtout pour les élèves de savoir les recevoir surtout.
Et vous, Sébastien, dans le cadre aussi de eTeachers, entre autres, vous créez du lien aussi avec les enseignants, avec la communauté ?
Oui, que ce soit au niveau d'eTeachers, que ce soit même au niveau plus personnel et professionnel, le numérique dans son ensemble, ça a été vraiment l'occasion de faire des tas de rencontres. Ludovia n'en serait pas né sans ça. Personnellement, je ne serais pas à Ludovia, je n'aurais pas connu la moitié des gens de mon milieu professionnel, parce qu'à la base, je suis dans un petit coin de France, etc. Et c'est une vraie exposition à des pratiques, à des idées. C'est toujours très, très motivant de prendre ce côté-là du numérique.
Alors, on va pouvoir aborder justement la question de l'utilisation du podcast plutôt dans un but de formation, d'information, de veille professionnelle. Vous pouvez nous parler du projet d'eTeachers par rapport à ça, et puis peut-être des pratiques des enseignants de manière générale par rapport à ça.
Alors, la base d'eTeachers, c'est une veille que nous partageons avec nos auditeurs. Cette année particulièrement, on a fait une émission spéciale, une série d'émissions spéciales sur les podcasts éducatifs. Sachant que, comme l'a introduit Régis tout à l'heure, ces derniers sont en train de se multiplier. Donc cette année, on a essayé de faire un petit panel de ce que ça pouvait représenter, depuis nos confrères et homologues de Nipédu, jusqu'à des choses beaucoup plus personnelles. Je vous en parlerai peut-être à la fin sur les recommandations. Mais voilà, on a un panel très différent qui peuvent tenir lieu de formation personnelle ou alors simplement d'aller à la rencontre de pans de notre métier qu'on ne connaît pas, de collègues qu'on ne connaît absolument pas et de rentrer, de voir le fonctionnement comme ça d'une institution à laquelle on appartient mais qui a des tas et des tas de facettes.
Hélène, ce que je te propose, on sait que Natacha est très prise. Et on a une autre invitée qui attend en coulisses. Natacha, déjà merci, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose avant de partir que tu n'as pas dit, que tu aurais envie de rajouter autour de cette thématique du podcast éducatif ?
Bien rapidement, que n'importe qui dans un établissement peut se lancer avec même très peu d'élèves et très peu de moyens. Un smartphone suffit, un petit logiciel pour faire le montage, un peu de temps ou beaucoup de temps selon ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un minimum d'investissement. Mais après, le résultat est très valorisant, et surtout pour les élèves. Et rapidement, voilà. Et surtout, ne pas attendre avant d'arriver à quelque chose de fini, même si c'est très court, pour que rapidement les élèves découvrent à quel point ils ont pu faire quelque chose de valorisant et accrochent pour la suite. Voilà. Et je vous remercie pour l'invitation.
Un grand merci à vous, Natacha.
Merci, Natacha.
On retrouve votre travail dans les notes de l'émission. Donc, on encourage les auditeurs d'Extra Classe à aller écouter vos productions. Un grand merci, Natacha. Et bien, en direct, hein, on le dit, Hélène, c'est-à-dire que Natacha est en train d'enlever son casque et on accueille Cécile Catelin. Le temps qu'elle s'installe gentiment au micro d'Extra Classe, donc toujours aux côtés de Sébastien qui nous accompagne, quant à lui, jusqu'à la fin de l'émission, Sébastien, c'est ça ?
Tout à fait, sans problème.
Bonjour Cécile.
Bonjour Régis.
Eh bien, un grand merci donc d'arriver au micro d'Extra Classe. Pardon.
Merci.
Alors, je vous présente et vous me dites si on ne dit pas de bêtises, vous êtes professeure de lettres en lycée et formatrice, et depuis janvier 2020, vous avez lancé la plateforme Clapotis, qui a pour but de montrer la plus-value du podcast dans le domaine de l'éducation.
Très bien résumé.
Parfait.
Dites-nous en plus sur Clapotis et sur votre... alors là, c'est un usage un petit peu différent de ce dont on parlait tout à l'heure, qui était plutôt de faire du podcast avec les élèves.
Oui.
Vous faites du podcast pour les élèves.
Voilà. L'idée, c'est en fait Clapotis, je l'avais lancé en janvier 2020, mais 5-6 ans avant, j'avais un peu essayé de voir la plus-value du podcast auprès des élèves et... voir si ça apportait du contenu intelligent, hors classe, en asynchrone. Voyant que ça marchait, j'ai lancé la plateforme en janvier 2020. Malheureusement et heureusement, le Covid passant par là, mars, plus rien. Et je me suis rendu compte que ces petits podcasts Clapotis avaient vraiment créé du lien, permettaient aux élèves de continuer à avoir du contenu hors classe, en asynchrone. Et bien ma foi, le retour est plutôt positif parce qu'ils me disent en fait c'est du mobile learning qui leur permet d'écouter où ils le souhaitent. Certains me disent c'est dans le tram, c'est dans le train, c'est juste avant le cours, en rentrant à la maison. On a ce luxe formidable de pouvoir appuyer sur le bouton, l'arrêter, de prendre des notes, de recommencer. Enfin voilà, donc ils voient beaucoup d'avantages dans ce mobile learning. Et l'idée de Clapotis, c'est effectivement de créer une sorte de plateforme solidaire sur laquelle on retrouverait du contenu de qualité, hein, bien sûr, en se référant au programme officiel, de leur offrir ce contenu de podcast, mais aussi ce que j'appelle Clapotis, c'est des podcasts enrichis ou aussi augmentés, si on veut être tendance. Pourquoi ? Parce qu'il y a le contenu audio, mais qui est accompagné de contenu visuel. Donc chaque en fait, épisode est accompagné d'une infographie qui peut être perçue comme une sorte de synthèse de ce qu'ils ont écouté, mais aussi comme une sorte de prise de notes, vous savez, avec les mots-clés dont ils ont besoin. Ça peut être bien orthographié un nom d'auteur, un mot-clé dans la terminologie littéraire. Et c'est pour ça que j'appelle ça des podcasts enrichis. L'ambition, elle est un peu plus grande maintenant parce qu'on veut créer des podcasts solidaires dans ce sens qu'ils offrent du contenu pour le français, mais est arrivé entre-temps en juin 2020 du contenu en espagnol. Il y a déjà du contenu en histoire. Vont arriver à la rentrée des maths parce qu'en fait, de l'audio peut aussi très bien fonctionner pour des matières comme les mathématiques. Moi, je ne croyais pas au début, mais en échangeant avec les collègues, ils m'ont dit finalement si. Et puis vont arriver aussi de l'anglais. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme solidaire, c'est-à-dire solidaire, n'importe quel élève peut avoir accès à un contenu sérieux en lien avec le programme officiel, gratuit, parce qu'aussi on s'est rendu compte avec la crise que c'est important d'offrir du contenu pour n'importe quel élève où qu'il soit, qu'il puisse en bénéficier. Voilà un petit peu l'ambition de cette plateforme.
Merci Cécile. Alors... on arrive à une partie de l'émission, on est sur le comment. Tout à l'heure, Natacha, avant de quitter le micro, son dernier mot, elle a tenu à dire qu'on peut se lancer facilement, qu'il ne faut pas hésiter à y aller pour commencer. En début d'émission, on disait que finalement, à la fin des fins, c'est un fichier audio. Sur la partie technique, pour redonner un petit peu la parole à Sébastien, si un enseignant devait se lancer en classe, et pour le coup, Sébastien, un enseignant d'école élémentaire, à produire du podcast avec ses élèves, pour et avec ses élèves, est-ce que tu aurais quelques idées, quelques pistes, quelques conseils ?
Allez, on va partir avec une solution toute bête. On va espérer que le collègue en question, le ou la collègue, il a un ordinateur de fond de classe. On prend même pas la salle info, on prend l'ordinateur de fond de classe. Et pour avoir un fichier qui ne soit pas trop mauvais, on va aller lui coller un petit micro-casque. Hein, c'est vraiment pas l'investissement. Généralement, on en a un qui traîne. Si on n'en a pas un, c'est vraiment pas cher. Et le micro-casque, il a cet avantage-là. C'est pas un micro superbe, mais on va l'enregistrer. On va enregistrer ça avec un petit logiciel libre style Audacity. Et c'est réglé. Vous avez déjà de quoi rouler pour une année entière et faire des montages très, très sympas.
Et Cécile, du coup, des conseils de ce côté-là ? Si vous avez déjà pu pratiquer dans le sens-là, c'est-à-dire les élèves qui produisent de l'audio du podcast.
Bah après, je rejoins ce qui vient de dire, hein, c'est-à-dire on peut très bien démarrer des podcasts avec très peu d'outils. Il y a en ce moment aussi beaucoup de plateformes gratuites hein, qui permettent de faire des montages assez simples. Alors, je ne sais pas si je peux dire des noms, mais voilà, il y a déjà la plateforme Encore qui est vraiment d'une facilité déconcertante, parce que aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, c'est une appréhension très simple et très facile. C'est gratuit. Le montage est d'une simplicité extrême. On met les fichiers, il y a des petites virgules sonores. Un peu plus technique, mais amusant, c'est Soundtrap. Ça ressemble comme pour les pros. On a toutes les pistes qui apparaissent et on fait le montage aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un outil... créer un podcast, c'est relativement simple. Et en plus, moi, j'ai envie de dire, c'est simple parce que c'est aussi amusant. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, quand même, d'avoir plaisir à monter un podcast.
Pour les non-connaisseurs, Encore, A-N-C-H-O-R. Oui. Je vais rajouter une solution dont vous n'avez pas parlé, que moi, j'aime beaucoup, que j'avais utilisée avec mes élèves de cycle le 3, pour ne rien cacher. C'est l'atelier France Info Junior, oui. Qui est une appli toute faite sur tablette, qui est sur toutes les... Je ne vais pas nommer de marque de tablettes disponibles, et qui, effectivement, contient tout. Les tapis sonores, la petite le petit atelier de montage, et il y a même des vidéos pédagogiques de comment préparer son conducteur, de comment tourne une rédaction, etc. Donc voilà, un outil aussi intéressant. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est fait en partenariat avec le CLIMI. Donc voilà.
Alors, je me permets d'en rajouter une. Il y a la Digital net qui a une petite solution avec des virgules intégrées, des bruitages intégrés également.
Très facile d'appréhension aussi.
Voilà.
Alors, on a entendu qu'il y avait plein de formats possibles dans le podcast. Natacha a parlé de documentaires, mais aussi d'interviews, de directs. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous partager les 2-3 références de podcasts que vous auriez envie de faire connaître à vos collègues ? Alors, je
me permets.
Sébastien.
Voilà. Hein, je ne vais pas aller très très loin. Il y a 2 podcasts sur l'éducation. D'un côté, vous avez Cas d'école. Avec des collègues, dont une collègue qui va aller dans les classes, qui va aller, par exemple, elle a fait un super reportage sur le CNED. Et de l'autre côté, vous avez Prof, etc., avec un collègue qui va interviewer. Ben, alors, ce sont des profs au sens très, très large. Hein. Je vous conseille celui sur Armand Altaï, par exemple, si vous voulez rigoler un peu. Voilà, pour aller très, très loin.
Prof
mais sinon,
de
vous avez.
Academy, hein, c'est
voilà,
ça.
Exactement. Hein, on l'a tous reconnu. Merci. Mais sinon, vous avez des profs au profil plus classique, on va dire. Donc, deux extraits très différents.
Là, il me pose une colle parce que je ne peux plus rien dire.
Ah.
Mais... ah si, moi j'en ai d'autres. Il y a Prof des écoles, c'est le podcast Prof des écoles. C'est effectivement le retour d'expérience d'un prof, du primaire. Là, c'est une colle parce que je suis en train d'en chercher. Si, enfin, il y en a un, si je peux me permettre, qui va apparaître à la rentrée, à travers lequel je participe aussi, qui va s'appeler Balade Édu. Un peu la métaphore de la balade, de la promenade, avec l'idée de s'adresser à toute la communauté éducative, professeurs, enseignants, professeurs-enseignants, directeurs, formateurs. Et l'idée, c'est justement de créer un podcast où tout le monde va s'y retrouver dans des pratiques et des usages. Et on va lancer ça justement en septembre, Balade Édu, et il y aura des témoignages de directeurs, d'enseignants, de formateurs, mais aussi d'élèves qui font des retours d'expérience sur des outils numériques. Parce que la communauté éducative, elle ne se fait pas sans nos élèves.
Et donc, bien sûr, les 2 recommandations de cet épisode, c'est Clapotis pour les élèves et e-teachers pour les enseignants. Un grand merci à tous les deux. Alors, si on reboucle avec Hélène du côté du le numérique est-il social, on sent bien en tout cas qu'il crée du lien. Voilà, c'est pas un raccourci facile de dire qu'il crée du lien. Et oui, le numérique, en tout cas, quand on fait de l'audio, il est forcément social. Et je pense que ceux qui nous écoutent à ce micro, que ce soit à n'importe quel moment, seront de cet avis.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
À l'école du podcast, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Hélène Audard
et Régis Forgione.
Enregistrement, montage et mixage,
Laurent Gaillard.
Coordination de production,
Luc Taramini et Hervé Thury.
Directrice de publication,
Marie-Caroline Missire.
Retrouvez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite.
Une production Réseau Canopée 2021.
extra classe.